présenté par Christelle Le Polotech
et préparé par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Adolphe Nissenholck et Annie Reinsky à l'occasion de la pièce « Mère de guerre » présentée pour la première fois à Paris avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et dont on peut retrouver le texte aux éditions Lanzmann. Mère de guerre, qui est donc présentée jusqu'au 30 janvier au théâtre Erfalguer, 55 rue de la Procession à Paris, c'est une lecture-spectacle animée de statuettes, accompagnée à l'alto par Sonia Moschneager, sur un texte extrêmement poignant, une sorte de jugement de Salomon, comme c'est inscrit sur la brochure, où un fils, sur le point de mourir, est visité par des fantômes, pourrait-on dire, de ses parents adoptifs qui l'ont sauvé de la déportation et de sa mère morte à Auschwitz. La pièce pose la question de la fidélité, de la trahison également, par-delà la mort. En quelque sorte, Adolphe Nissenholck, vous mettez en scène avec cette pièce une conversation capitale pour l'enfant qui n'a jamais pu avoir lieu entre tous ses protagonistes.
Mais oui, excusez-moi pour ma voix. Effectivement, je n'ai jamais vu revenir deux revenantes avec lesquelles j'ai pu converser. Et donc, c'est une création ou une recréation. Mais il se fait que ces dialogues me sont venus assez naturellement. Et c'est une pièce qui a été écrite après plusieurs autres pièces et qui est l'aboutissement d'un parcours.
La pièce... Mère de guerre a été présentée en Belgique, bien sûr, puisque c'est votre pays d'origine, en Roumanie, mais aussi en Israël. Annie Reinsky, comment est né le projet de la montée à Paris et comment s'est passée votre rencontre avec l'auteur?
Eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer un violoniste de l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles au mois de juin pour une soirée fête de la musique et présentation d'un ouvrage traduit du yiddish. Et j'avais un moment à passer avec ce violoniste et nous avons bavardé. Et il m'a parlé d'un ami à Bruxelles qui avait écrit « Mère de guerre », un peu l'histoire de sa vie. Et je dis « Tiens, ça m'intéresse, est-ce que vous pouvez nous mettre en contact ?» Donc il nous a mis en contact. J'ai rencontré Adolphe à Paris en juillet suivant. Et puis voilà. Et comme je connais très bien la directrice du théâtre Erfalguer, qui est toujours aussi à l'affût de nouveaux projets, et voilà, nous avons sympathisé tous et avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah aussi. Et le projet est là.
On va revenir un petit peu au texte donc de Mère de guerre, si vous le voulez bien, Adolphe Nissenholck. Il y a une première chose qui est frappante, c'est l'usage du mot paraître et marâtre.
Mais oui, ce sont des termes tout à fait tombés en désuétude. Alors, j'avais une question qui était apparue à la première version. Et où les sauveurs, ceux qu'on appelle les justes, apparaissaient un peu trop idéalisés et donc presque comme des saints, ce qu'on a tendance à faire. Mais pour une cérémonie, c'est très bien, mais pour le théâtre, ils ne sont pas vivants à ce moment-là. Et donc, plus la marraine de guerre était bonne, il me fallait un contrepoids et... Je l'ai appelé marâtre, ce qui choque. D'ailleurs, ça a choqué certains jeunes juifs à Bruxelles, avec qui j'ai eu une conversation. Mais en fait, c'est expliqué dans la pièce, puisque le mari de cette marraine s'indigne que le fils l'appelle parâtre.
Absolument, il trouve ça péjoratif.
Hein. Mais, oui, ça l'est. Mais... Alors, le fils dit, mais comment appeler quelqu'un qui vous sauve pendant un certain moment donné, qui n'a pas été un deuxième mari de la mère, enfin, comment l'appeler? Et donc, il le justifie en disant que ce terme vieux, archaïque, ben, il le remet à l'honneur pour lui, donc comme un titre. Et d'où il était plus facile alors d'attribuer le terme marâtre à la marraine de guerre.
Le thème de cette pièce est aussi présent dans un autre de vos livres, Bobelé, l'enfant à l'ombre, paru aux éditions de l'Harmattan, qui raconte le quotidien d'un enfant juif caché, recueilli par un couple, Tank et Nunkel, pendant la guerre. Il s'agit là d'un roman autobiographique.
D'inspiration autobiographique, oui. Là, je l'ai vécu, tandis que la nuit où il y a les deux revenantes et qui vont revendiquer chacune d'être la vraie mère, ben ça, évidemment, je ne l'ai pas vécu.
Non, vous l'avez créé.
Ben, je l'ai vécu profondément, mais pas de manière consciente tous les jours. Mais ceci étant dit, comme vous aviez très bien dit là tout à l'heure, il y a le problème de la fidélité et donc de la trahison. Et donc, pour le fils, c'est impossible de choisir l'une ou l'autre. Alors, un metteur en scène voulait les faire partir toutes les deux ensemble, presque main dans la main. Et là, je me suis indigné parce que ce sont deux morts totalement différentes. Mm-hmm. Elles ne sont pas dans la même mort.
C'est-à-dire que d'un côté, il y a une sépulture, de l'autre côté, un anéantissement total et anonyme.
Ben oui. Et donc, la marraine est morte naturellement de sa belle mort à l'âge de 90 ans. Tandis que l'autre est une jeune femme, presque une jeune fille, et qui, en fait, quand elle vient réclamer son enfant, réclame aussi son enfance à elle. Qu'on lui a volé. On lui a volé toute une vie. Et donc il y a une ambiguïté dans sa révolte. Elle est révoltée comme mère, mais aussi comme femme. Et comme jeune femme.
Elle exprime aussi de la jalousie, c'est-à-dire que vous n'idéalisez personne, ni le parâtre et la marâtre, ni la mère qui, à un moment, le fils lui dit « mais tu devrais être reconnaissante que j'ai pu trouver ». C'est vraiment un texte qui n'est pas une personne, c'est pas forcément un, mais en tout cas qui essaye de chercher une vérité.
Mais c'est-à-dire on n'ose pas le dire, on n'ose pas dire que une mère qui serait revenue vivante aurait été jalouse. Or ça s'est vraiment passé puisqu'il y a eu des procès. Il y a des parrains de guerre qui n'ont pas voulu remettre l'enfant. Et il y a l'affaire Finali par exemple. Et ici le fait que qu'on le mette en scène. Mais je ne connaissais pas cette affaire Finali quand j'ai écrit la pièce. Enfin, peu importe. Mais je sentais que les conflits seraient plus forts si chaque personnage est ambigu.
C'est-à-dire
comme,
humain.
Comme chacun, voilà. Chacun est dans un tiraillement entre des tendances et surtout dans une situation pareille.
Les parents originaires, la mère notamment, sont peu présents dans le roman de Bobelé. Elle est au contraire fondamentale dans la pièce Mère de guerre. Est-ce que c'est tout ce temps qu'il fallait pour se confronter à sa disparition? C'est-à-dire que Bobelé, c'est vraiment sur l'enfance, hein, c'est ça.
Mais vous me faites penser maintenant que peut-être parce qu'elle n'avait pas eu la parole dans le roman, j'ai peut-être éprouvé le besoin de la sortir.
Oui, qu'elle existe.
Ben oui, de la faire parler. Et puisque dans la réalité, j'ai pas grand-chose à en dire, j'étais trop petit pour m'en souvenir.
Trop petit, et quand on lit Bobelé, on voit à quel point cet enfant est dans un déracinement constant. Là, il y a d'abord la première séparation avec sa mère, ensuite, à la fin de la guerre, l'arrivée de l'oncle, qui est un survivant des camps de la mort, qui va récupérer l'enfant, qui va le retirer aux parents adoptifs, le mettre dans un foyer, et puis ensuite, à nouveau, quitter un foyer, peut-être partir en Israël, peut-être partir aux États-Unis. États-Unis, finalement, l'enfance, elle est faite d'une succession de choix cruciaux. Donc, comment avoir le temps de penser à sa mère, en fait, en quelque sorte, quand on est constamment confronté à des séparations?
Mais justement, avec les séparations, ça réactive la mère, puisque c'est le premier abandon, entre guillemets, qui est revécu plusieurs fois.
Je reviens vraiment sur cette... on a l'impression en fait de suivre le même personnage en lisant ces deux textes, Mère de guerre et Bubelet. Donc l'un étant l'enfant pris dans la tourmente, celle de la guerre et de l'après-guerre, et puis l'autre qui est un homme âgé, sur le point de mourir, qui est peut-être plus dans l'introspection, qui est hanté par ce passé et qui n'a finalement pas pu répondre à cette question originelle.
Mais oui, il y a là tout un parcours, évidemment. Mère de guerre a été écrit, enfin finalisé, bien avant le roman.
Ah bon, d'accord. Dans ce roman donc, de Bubelet, le jeune héros n'a pas été élevé dans les toutes premières années de sa vie dans la religion, puisque son père s'en était éloigné. Et il va finalement être à nouveau confronté à cette religion lorsque son oncle, qui revient donc des camps, choisit de le placer dans un foyer pour les enfants juifs. Est-ce que cela va être vécu par l'enfant comme un moyen de se rapprocher de ses parents, de son identité originelle, ou finalement son identité, il va la chercher ailleurs, dans les rencontres?
En fait, mon oncle, comme vous dites, m'a éloigné des parents qui n'étaient pas adoptifs, mais qui étaient prêts à le faire. Mais c'est gentiment dit, parce qu'il m'a kidnappé. Il m'a arraché à cette famille sans me prévenir. C'est-à-dire qu'il m'a emmené, il ne m'a pas ramené. Et il aurait pu me mettre directement dans un home de la IVG, qui est un peu l'équivalent de l'OSE en Belgique. Il aurait pu me mettre dans un home religieux directement. Or, il m'a mis dans un home plutôt laïque.
Oui.
Peut-être que là, il respectait le choix de mes parents qui... non seulement se sont éloignés de la religion, mais ils étaient communistes.
Ah,
oui. Carrément. Donc, ils n'ont pas circoncis leurs deux enfants, enfin leurs deux fils. Donc, c'était vraiment très, très éloigné. Plus qu'éloigné. Alors que mon grand-père, enfin mes grands-parents, du côté de mon père, ils ont eu 9 enfants. Et ils étaient tout à fait hyper religieux. C'était dans le petit shtetl de Goura Calvaria, que vous ne connaissez pas.
Non.
Bon. Or, c'était un des hauts lieux, sinon le haut lieu du racidisme.
D'accord.
Avec un rabbin miraculeux, tout ça. Donc, et mon père,
C'est le seul à s'être éloigné de la religion dans cette famille?
Mais non, l'oncle aussi, et les autres, je ne sais pas. Donc un beau jour de février 40 ou 41, je ne sais plus. Tout Goura Calvaria a été déporté. Et Goura Calvaria veut dire la montagne du calvaire. Et voilà, donc il n'y a plus personne qui est resté de ce côté-là. Et du côté de ma mère, il n'y a même pas un oncle. Là, ils étaient 5 enfants et il n'y a personne qui est resté.
Et du coup, pour revenir à ma question, est-ce que la religion juive a pu servir de lien avec cette famille disparue? Parce que, en tout cas, dans le roman, on va rester sur le roman, le jeune héros est circoncis, finalement, tardivement. Il y a une...
Oui, là aussi, c'est... Donc, pour faire sa bar mitzvah, il fallait qu'il fût circoncis. Mm-hmm. Oui, c'est une sorte de... Mais tout ça, c'est ambigu, hein, parce que qui me l'avait proposé, c'était le directeur du home, qui est un peu un substitut du père, et il a joué sur les sentiments. dans une sorte de chantage.
Quel sentiment?
Bah, c'est si tu le fais pas, si tu acceptes pas, je t'aime plus.
Ah oui, d'accord.
Bah, oui, c'est ça, quoi. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé.
Quels souvenirs vous gardez de ces années dans ces foyers?
Ah, ils étaient formidables. Le premier qui était plutôt bondiste, avec une directrice qui était médecin de Pologne. Et en fait, c'était l'esprit Janusz Korczak. Et on faisait plein d'activités. C'était... En fait, j'ai retrouvé une famille, là, parce que tous les copains et les copines, c'était comme de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. Donc, on était la plus grande famille de... La famille la plus nombreuse de Belgique. Alors, ce home-là, qui était logé dans un château, a fermé après 2 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai été avec mes camarades. Enfin, les plus jeunes ont été à Oudorgem, qui est un home religieux. Et donc, c'est là qu'on a appris un peu de... Mais malheureusement, c'était le moins sympathique des deux.
Mais ce que je me disais, c'est qu'en fait, ces foyers, puisqu'on parlait au tout début de la question de la culpabilité, ces foyers vous ont éloigné aussi de vos parents adoptifs, même si vous continuiez éventuellement à les voir ponctuellement pendant toute cette période.
Mais c'est tout le sujet de la pièce. Est-ce que je pouvais aller les voir, puisqu'on m'avait coupé d'eux. L'oncle était extrêmement jaloux de ces personnes et les personnes croyaient que je détestais mon oncle. Et or, peu à peu, je me suis rapproché de lui. Et je n'osais pas le dire aux
parents.
Par exemple, à la fête des mères, j'allais toujours avec un pot de fleurs chez mes parrains de guerre le matin. Et puis, il m'est arrivé d'être l'après-midi chez l'oncle. Sans dire ni à l'un ni à l'autre où j'avais été. Donc la pièce est là, quoi.
Donc en fait, l'oncle symbolise la famille originelle.
Bah, il aurait pu être mon père.
Cette culpabilité qui est décrite donc entre ces deux pans familiaux, on va dire, parce que malgré tout, cette marâtre et ce parâtre font réellement partie de la famille du fils.
Ben oui, c'était une nouvelle famille aussi. Et, mais l'attitude de l'oncle a fait qu'il y avait un tabou. Elle avait été interdite.
C'est ça qui vous a inspiré pour le personnage de la mère, cette attitude de cet oncle qui était un peu distancié, qui était un peu jaloux de cet amour que vous portiez à votre famille adoptive?
En écrivant la pièce, je ne le savais pas, mais vous le dites.
C'est une question que je vous pose, pas une
affirmation. Non, finalement, je l'ai vécu vraiment, ce déchirement. J'attribue à la mère le discours de l'oncle, quoique il n'était pas très, très bavard. Il ne connaissait pas le français et je ne pouvais pas parler avec lui. Parce que lui, il venait directement de Pologne. Je ne l'avais jamais vu avant.
Il est venu juste pour vous chercher?
Mais il était convaincu, c'est ce qu'il a toujours dit, que son frère aîné, c'est-à-dire mon père, lui avait survécu. Donc il avait idéalisé mon père. Et oui, il est venu en Belgique clandestinement pour moi et mon frère. Mais comme sa femme à mon oncle avait de la famille, une sœur aux États-Unis, il était en transit en Belgique et il espérait nous emmener. Et mon frère n'a pas voulu partir et moi j'ai voulu rester avec mon frère, mais peut-être que je voulais surtout rester
avec cette famille
que j'allais voir de temps en temps.
Il y a là aussi, une sorte de lien entre le roman Bubelé et la pièce. Dans le roman, le jeune héros fait du théâtre d'objets, du théâtre de marionnettes. Et puis, cette pièce, telle qu'elle est présentée au théâtre Erfalguer, c'est également du théâtre d'objets. C'était une sorte d'hommage à votre passion enfantine. Pourquoi ce choix, en fait ?
Bah, écoutez, c'est venu très peu à peu. Il se fait que j'avais été invité à Marseille pour faire une lecture de pièces et je voulais présenter cette pièce-là. Or, c'était dans un centre culturel d'une barre avec des gens de toutes origines, maghrébines, turques et autres. Et je me suis dit, si je vais avec cette pièce-là, ils vont croire que je fais de la provocation, j'ai pas envie de faire ça. Et j'ai converti ma pièce dans le cadre du génocide Tutsi. Donc c'était deux vieux Hutus qui sauvent un petit Tutsi. Et la veille, j'ai vu des statuettes africaines dans une vitrine. Comme il y en a là. J'ai demandé au barman si je pouvais les utiliser. Et donc j'ai fait ça. Et après la représentation, que j'avais tout à fait improvisé, j'avais jamais fait ça. Mais j'ai demandé pourquoi des enfants qui étaient là sont restés, parce que c'était ouvert, ils pouvaient partir, et une petite fille a dit devant un micro que ça lui avait plu. Voilà, elle est restée parce que... Bon. Et ça a été le début. Ça a été le début.
Donc c'est
ça.
Presque un hasard, en fait, qui prend...
Oui.
Un concours de circonstances, plutôt.
Mais je dirais maintenant, pour caractériser ce spectacle, cette lecture-spectacle, c'est un vieux monsieur qui joue à la poupée. Et la poupée, c'est sa mère jeune. Donc tout est inversé. Et en plus, une mère jeune morte à Auschwitz. Donc c'est comme ça que je... Mais alors, vous parliez d'hommage, je n'ai pas fait un hommage aux marionnettes que je fabriquais quand j'étais petit, c'est pas un hommage à ça, non.
Est-ce que cette pièce va être jouée dans d'autres cadres que le théâtre Erfalguer, Annie Reiski?
Nous espérons,
oui.
Nous espérons, il y a peut-être une idée avec le Mémorial de la Shoah, de Cercil à Orléans. Donc voilà, on attend des réponses.
D'accord. Donc en l'occurrence, on peut en tout cas avec certitude retrouver Mère de Guerre le 30 janvier prochain à 21h au théâtre Erfalguer. Je vous remercie beaucoup d'être venu, Adolphe Nissenholk, Annie Reiski. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.